Morning Edition from NPR News.
Let me teach some people how to eat.
France Inter, le 18.
Ce soir, nous allons en Allemagne, qui a un peu fait sa révolution quand même depuis le début de cette guerre en Ukraine, notamment sur le plan militaire, mais ça ne va pas sans mal. Le pays se déchire désormais entre ceux qui veulent livrer des armes lourdes et Olaf Scholz, lui, qui freine des cas de fer. Cette guerre aura vraiment transfiguré ce pays, ou préfigure la transformation, puisque la question du gaz, par exemple, reste aussi un gros sujet de controverse, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde commence avec les notes vocales de Caroline Gillet. Vous suivrez le périple vers la Belgique de Nalia. Nous sommes aussi au Brésil ce soir, où les Indiens qui luttent contre l'exploitation de leur territoire ont reçu le soutien de Lula. Et puis sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé une photographe sicilienne dont la mort émeut le pays tout entier. Le Michigan devant la mort d'un noir une fois de plus tué par un policier blanc. Et le journal La Liberté d'Alger qui ne paraît plus. 18h50, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes. Et Pierre Benazé avec la Hongrie qui refuse d'entrer dans le rang, toujours dans les mesures contre la Russie. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et cette phrase terrible du patron de l'OMS qui dit « Le monde ne prête pas la même attention aux vies des Noirs et des Blancs ». Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Hélène Millard-Delacroix.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. L'Allemagne, je le disais, on va bien sûr y revenir, s'est beaucoup déchirée sur son gaz ces derniers jours et dernières semaines et sa dépendance évidemment à la Russie. C'est sur les armes que la crise aujourd'hui se prolonge et la livraison d'armes lourdes notamment. La ministre des Affaires étrangères est d'accord, pas le chancelier, ce qui est quand même un problème. Est-ce que ça sent la rupture tout ça?
Alors, je ne pense pas qu'il faille envisager une rupture à l'intérieur du gouvernement qui s'est formé il y a seulement quelques mois. Il y a des grincements, il y a du tirage. C'est assez bouleversant au sens premier du terme, c'est que personne n'est dans le rôle qu'on attendait. On attendait plutôt, traditionnellement, des Verts, qui sont quand même issus des années 80, du mouvement pacifiste.
Et c'est la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui plaide pour les armes lourdes.
Exactement.
C'est quand même un comble, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que on a parlé beaucoup de révolution. Le 27 février, trois jours après l'invasion, l'attaque de l'Ukraine, le chancelier et les différents principaux ministres ont fait une séance au Bundestag en expliquant que c'était un changement d'époque. On a parlé de Zeitenwende, ce qui était très lourd. Mais en fait, l'Allemagne se trouve très désarmée, sans faire de jeu de mots. Alors, ils ont décidé d'investir 100 milliards dans leur défense, sauf que ça va pas se faire immédiatement. Et ce sont plus les armes de la diplomatie qui manquent. Et surtout, il s'agit... ce qu'on trouve en morceaux devant ses pieds en Allemagne, c'est les grands principes de la diplomatie allemande. C'est-à-dire ce sur quoi on avait misé, qui était à la fois de soigner l'accès aux matières premières et aux ressources énergétiques, donc on va dire la Russie, pour aller vite, et soigner les marchés pour diffuser les produits de l'industrie allemande. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est un pays industriel et un pays d'exportation qui a besoin de matières premières et qui exporte. Et là, c'était la Chine. Et d'un seul coup, avec cette crise, c'est l'effondrement de toute l'organisation qui fonctionnait bien seulement s'il y avait un équilibre, s'il y avait la paix, s'il y avait une circulation aisée, pas de blocage de frontières et pas de sel ou de sable dans les rouages. Et c'est en fait, l'Allemagne se trouve désarmée parce que les armes habituelles que l'on peut avoir dans cette situation vont à rebrousse-poil du savoir-faire et surtout des valeurs et qui se trouve donc dans une impasse à devoir renoncer au gaz, c'est-à-dire donc priver la population et l'économie allemande d'une de ses ressources essentielles. S'ils ne le font pas, ils financent la guerre de Poutine, et c'est vraiment ces termes que ça se passe. Et s'ils ne livrent pas d'armes, ils trahissent ceux qui sont en train de mourir pour l'Europe. Et s'ils livrent des armes, ils trahissent les principes qui ont établi, principes éthiques sur lesquels ce pays s'est établi. Donc on voit que, où qu'ils regardent, ils sont déchirés. Et donc là, on voit les deux parties poser des principes différents et c'est pas le chancelier qui s'en sort le mieux. Il est assez
éteint, on va le dire comme ça. On y viendra, l'attitude de ce chancelier, mais effectivement le mot qui me vient en tout cas c'est éteint. Quand il y a cette division sur les armes lourdes, moi je me demandais justement si dans ce double tourbillon là, c'était pas aussi une forme de culpabilité en fait, parce que on sait que pour l'instant on peut pas s'entendre sur le gaz, donc on va pas couper le robinet du gaz, donc on dit aux Ukrainiens, le gaz on va pas pouvoir, on finance la guerre, c'est vrai, en échange échange de quoi ? On va vous donner des armes plus fortes, on va vous donner des armes lourdes. Est-ce que c'est ça aussi, l'espèce de marché qui est en train de se jouer avec l'Ukraine ? Quelque chose de déculpabilisant, en fait.
C'est déculpabilisant, et en même temps, c'est affreux, parce que livrer des armes, ça ne se fait pas quand on est allemand. Alors, vous savez que l'Allemagne est un des gros exportateurs d'armes, on le sait, mais on ne le sait pas, on ne le dit pas, on le cache, beaucoup d'Allemands ne le savent pas. Et ça fait partie de ces points un petit peu cyniques, où on préfère ne pas trop parler de ces questions-là. Or là, livrer des armes, c'est vraiment... soit on donne de l'argent pour que Poutine ait des armes, soit on livre des armes et on entre à un belligérant, et on entre indirectement dans un jeu qui constitue quand même à tuer des gens.
Quand Olaf Scholz dit, non mais attendez, l'un des arguments c'est qu'elles ne sont pas prêtes, ces armes-là. Est-ce que c'est vraiment une manière de noyer le poisson, ou est-ce que c'est une réalité aussi ?
Alors, c'est aussi là aussi un petit peu faux, et on se dispute beaucoup en Allemagne actuellement, dans les médias, et y compris au Parlement, sur quelles armes est-on en mesure de livrer. Alors, soit on livre des armes très modernes, dont les Ukrainiens ne savent pas se servir immédiatement, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ce qui a été décidé, c'était de livrer aux Polonais un armement plus moderne, et que les Polonais, eux, livrent un armement aux Ukrainiens qui soit plus ancien, on va dire, et plus aisé, et qu'ils connaissent. Il y a aussi le fait qu'on peut livrer aux Ukrainiens des armes qui sont... je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on les appelle les Marder, etc. Et là, les Allemands disent, ah ben non, on ne peut pas leur livrer parce qu'elles ne sont plus en état de marche. Sauf qu'il y a 2 ans, avant qu'il y ait eu cette catastrophe, la ministre de la Défense disait, oh, nous allons parfaitement maintenir en état nos armes, et c'était celle-ci que la Bundeswehr était censée utiliser. Donc il y a un jeu de mauvaise conscience et finalement de ne pas affronter la réalité, c'est-à-dire ce que fait en revanche très bien la ministre des Affaires étrangères, qui est de dire, nous avons des principes, mais là, il y a des principes supérieurs qui nous obligent à mettre dans notre poche tous nos scrupules. Et je crains que à ce jeu-là, l'Allemagne se retrouve à devoir, en fin de compte, et couper le gaz et livrer des armes à contre-cœur, en s'y trouvant contrainte, ou voire privée de gaz, si jamais Poutine, lui, décidait d'utiliser cette arme.
Avec en plus, donc, un refus de Kiev de voir le président allemand, ce qui est un camouflet, une humiliation terrible, en fait.
Oui, alors ça déchire beaucoup les Allemands actuellement. Alors donc, pour rappeler les faits, Zelensky, le président ukrainien, a désinvité, ou plutôt a dit au président fédéral, hein, donc c'est le chef de l'État, il ne dirige pas, mais c'est le chef de l'État, celui qui représente le pays, qui était en Pologne et qui a dit, je vais aller faire un tour en Ukraine. Et là, les services...
Zelensky a dit, vous dérangez pas.
Zelensky a dit, c'est pas la peine de vous déranger, on veut pas vous voir. En reprochant au président fédéral, qui a été auparavant ministre des Affaires étrangères et a eu beaucoup de liens avec Poutine et a été beaucoup dans la mise en place de Nord Stream 2. Donc c'était une façon de Zelensky de lui dire, vous avez été un copain de Poutine,
vous êtes dans le mauvais
bien
camp.
Que vous vous soyez excusé, parce qu'il reproche en fait son attitude passée. Or, le président fédéral a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire faire serment d'honorable, dire qu'on est absolument désolé et qu'on va aider les Ukrainiens. Alors, on peut comprendre la réaction de Zelensky, ce n'est pas, et c'est ce qui est débattu actuellement en Allemagne, c'était à court de vue de réagir ainsi. Et d'ailleurs, ils sont en train de rétro-pédaler parce que Zelensky a dit « Ah mais non, nous ne les avons pas désinvités ». Et là, les Allemands essaient de démontrer par A plus B qu'on a bien reçu tel télégramme le désinvitant. C'est que, d'une part, c'est un peu insultant quand même.
Ben oui.
Le chef de l'État, voilà, on peut lui dire. Il vaut mieux lui dire en face, vous êtes très très mal comporté, plutôt que ne pas l'inviter. Et puis c'est une façon de rassembler les Allemands dans une irritation, dans leur honneur quand même, parce que c'est vexant que son propre chef de l'État soit désinvité, alors même que les Allemands ont l'impression, c'est pas ce que dit le monde autour, mais alors que même que les Allemands ont l'impression d'aider énormément les Ukrainiens, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'Ukrainiens, par exemple, qui sont arrivés en Allemagne qu'en France.
Mais alors du coup, j'ai un peu perdu le fil, est-ce que la délégation allemande y est allée quand même ? Est-ce que...
La délégation polonaise devait y aller, mais le président fédéral n'est pas allé. Quand on est
alors,
pas invité, on n'est pas
allé. Pas le président fédéral, mais ça veut dire que la délégation parlementaire, par exemple, est-ce qu'il y a eu une délégation parlementaire qui a fini par y aller ou même pas, en fait ?
Là, c'est...
Pas du tout, d'accord. Parce qu'il y a eu ça un moment aussi, et je me demandais finalement qui avait fini par y mettre les pieds. Quand l'un des arguments d'Olaf Scholz, c'est aussi de dire si on livre des armes offensives, attention, parce que, alors d'abord, effectivement, on sait ce que ça veut dire sur est-ce qu'on devient belligérant ou pas belligérant. Surtout, on ne peut pas le faire tout seul. Il ne faut pas le faire sans l'ensemble de l'Europe. Et là-dessus, il n'a pas tort, non ?
Oui, c'est vrai. Et surtout, chacun, dans ses arguments, essaie de mesurer dans quelle mesure, de quelle façon on fait le jeu de Poutine. Parce que l'objectif de Poutine, c'est un, que les Européens se divisent. qu'ils ne soient pas d'accord et qu'ils entrent dans le conflit pour pouvoir avoir le prétexte pour tirer. Et donc, je crois que là, c'est cette hésitation. Il y a une addition d'hésitation chez Scholz qui le conduit en effet à être immobile et à être en permanence à avoir peur. Et c'est ça que sont ses alliés lui reprochent, et ses alliés à l'extérieur, et ses alliés dans le gouvernement, c'est qu'il a l'air d'avoir peur de tout, peur de son ombre, et finalement d'endommager beaucoup l'image de l'Allemagne. C'est ce que lui a reproché hier le président du groupe parlement, le président, pardon, de l'Europe, enfin, pardon, je vais y arriver, Ausschuss en allemand, il me manque les mots en français, excusez-moi.
Ah bah écoutez, bah, je vous en prie, je ne sais pas qui lui a dit quoi que ce soit en Europe, donc voilà. Je ne vais pas vous aider là-dessus.
Le groupe des députés qui s'occupe des affaires européennes, qui est un vert, qui s'appelle Hofreiter, et qui l'a agressé publiquement à la radio en disant que le vrai problème de toute l'Allemagne se trouvait à la chancellerie, c'est-à-dire chez le chancelier lui-même, qui endommage énormément l'image de l'Allemagne et qu'en fin de compte, on va tout perdre, on va avoir perdu non seulement notre honneur, mais en plus notre réputation.
Donc l'effet collatéral est double, en fait. D'une part, effectivement, il peut mettre l'Europe dans une situation qui peut être problématique s'il y va avec ses armes défensives, ce qu'il serait le premier à faire. Mais est-ce qu'il est aussi en train de devenir l'homme faible de l'Europe, ce qui serait quand même un comble pour un chancelier allemand ?
Mais c'est vrai qu'il montre moins de disposition à affronter la situation dans sa gravité que les autres. Alors heureusement qu'il a cette ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, que tout le monde au début moquait en disant
elle est trop verte, enfin, au sens trop jeune.
Voilà, un peu jeune, elle n'a pas d'expérience, elle ne sait rien faire, elle parle d'une diplomatie fondée sur les valeurs et d'une diplomatie verte. Eh bien, elle avait beaucoup reproché au gouvernement Merkel d'avoir donné son accord et d'avoir poussé la construction de Nord Stream 2. Elle avait mis en garde contre les contacts avec Poutine, et finalement c'est elle qui a raison maintenant. Et elle fait le job là, d'une certaine façon. Elle est sur le terrain énormément. Elle rehausse l'image de l'Allemagne dans sa diplomatie qu'elle appelle féminine. Alors cette notion de diplomatie féminine ou féministe, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui a une réalité, c'est-à-dire l'idée de défendre des contacts en agression, en brutalité, mais en soft power, et en défendant toujours l'humain. Ce qu'elle fait dans tous ses voyages.
Et que dit la population allemande pendant ce temps-là? Dans quel sens est-elle elle aussi déchirée? Nous avons eu les débats ici. Est-ce qu'on est prêt à avoir froid pour l'Ukraine? La question est beaucoup plus prégnante effectivement pour les Allemands. Est-ce que ce débat a été tranché par la population allemande ou pas? Je pense à cet article dans le New York Times qui était d'une terrible cruauté de l'ancien prix Nobel dont le nom m'échappe aussi, Krugman, qui dit les Allemands ne veulent pas faire les sacrifices qu'ils ont demandé aux autres pays européens pendant la crise financière. C'est terriblement raide pour les Allemands, j'imagine, d'entendre ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la population ?
Alors, cette analyse, moi je l'ai faite il y a quelques temps aussi, et je l'ai dit d'ailleurs à une émission de radio en Allemagne, mes interlocuteurs étaient assez choqués, mais je crois que c'est un réflexe qu'on a assez en Europe de considérer que cette fois-ci, les Allemands, c'est à eux de faire leur devoir, comme ils demandaient aux autres de le faire, et d'être à la hauteur de leurs exigences. Alors la population, c'est très variable, mais là, le dernier sondage donne plus de 50% des Allemands qui sont hostiles des sanctions concernant le gaz. C'est-à-dire que donc la majorité des gens ne veulent pas. Alors c'est moins parce qu'ils ont peur d'avoir froid que parce que, ils ont peur pour leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire donc comme dans la plupart des pays européens, et surtout parce que, alors peut-être parce que c'est le résultat d'un lobbying très actif de la part du monde industriel allemand, il y a plusieurs rapports qui ont annoncé que si on ferme le gaz, un grand pan de l'industrie allemande, en particulier la chimie, ne peut pas travailler puisqu'ils ont besoin d'énormément de gaz, et que en particulier le grand centre chimique de Ludwigshafen fermerait et mettrait 140 000 personnes au chômage. Donc ce que les Allemands craignent, c'est peut-être moins l'idée d'avoir froid, parce que bon là, il commence à faire frais, c'est moins cette projection, que l'idée du chômage, de l'effondrement de la croissance et d'une crise qui mettrait un terme à quand même plusieurs décennies.
On parle même de récession possiblement. Donc c'est quand même un chiffre, un mot, j'imagine, que les Allemands n'aiment pas entendre,
récession. D'autant que les je ne veux pas dire les choses comme ça, mais d'une certaine façon, depuis deux décennies, un certain nombre de pays européens ont connu des difficultés économiques, l'Allemagne jamais.
Oui.
Et donc, il y a plusieurs générations là, qui se sont habituées à ce que ça aille très bien et qui, d'un seul coup, voient cette stabilité s'effondrer.
Hélène Millard de la Croix, pour parler à son peuple, comme pour parler à l'extérieur, que diriez-vous qu'il lui manque, Olaf Scholz, par rapport à Angela Merkel, qui avait cette rondeur, d'abord qui connaissait tous les chefs d'État, donc il y avait peut-être une facilité qu'il n'a pas lui, mais enfin, quoique, il a été ministre des Affaires étrangères, donc il a quand même une certaine habitude. Elle avait surtout une manière, on l'a bien vu notamment pendant la pandémie, de parler aux Allemands qui étaient largement écoutables, en fait. Est-ce que c'est ça qui lui manque à Olaf Scholz, au fond? C'est cette courroie et cette proximité qui fait qu'il n'arrive pas à avancer ses idées, ou en tout cas, il a même peur, comme vous le disiez, d'aller vraiment sur le terrain.
Alors, c'est peut-être plus le fond que la forme, parce que sur la forme, on le connaît, il est comme ça. C'est un Allemand du Nord. Certains disent de lui en Allemagne qu'il est monosyllabique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il parle extrêmement peu. Comme l'était d'une certaine façon Madame Merkel aussi, puisque quand elle avait trois mots à dire, elle disait trois, puis elle s'arrêtait. Ouais. Simplement, il lui manque cette rondeur qu'elle avait, qui peut être féminine, qui peut être liée à son âge, je ne sais. Mais il est pour le fond, les grands discours qu'il a fait au Bundestag, c'était... ça avait de la profondeur et de l'ampleur, donc il est capable. Mais simplement, quand il est comme Helmut Schmidt était, c'est-à-dire que quand il prend chaque mot dans son sens réel et il n'en rajoute pas, il n'arrondit pas, il ne protège pas. Moi, il me donne l'impression d'être assez pétrifié par ce qui se passe.
Par l'enjeu
et puis par cette révolution soudaine qui est arrivée et qui, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une mise en cause absolument radicale de tous les fondamentaux de la politique étrangère allemande. Ce sur quoi ils avaient misé est en train de s'écrouler.
Ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il se passe, cette fracture-là et cette difficulté est de toute façon durable. Il y aura en Allemagne, quoi qu'il se passe, un avant et un après.
Oui, alors ils essaient de pousser beaucoup. Celui qui est beaucoup aux manettes, c'est le ministre aussi qui est vert de l'économie, Robert Habeck, qui lui considère que puisqu'il y a rupture, eh bien il faut en profiter pour saisir cette opportunité pour accélérer encore le changement de l'énergie, de la politique énergétique. Et là, pour Pâques, il a proposé un paquet offrant des aides à différents secteurs, en particulier à l'industrie, mais aussi en disant nous avions l'objectif d'arriver à être à 80% énergie renouvelable en 2030, eh bien nous allons y arriver peut-être même avant. C'est-à-dire qu'il essaie de prendre la crise au sens positif que peut avoir une crise, c'est-à-dire un révélateur de la nécessité de mettre beaucoup plus d'éoliennes et de faire sauter tous ces verrous qu'il y avait dans la société allemande, qui n'avait pas très envie d'avoir une éolienne dans son jardin.
Et rapidement, et pour conclure, Hélène Millard de la Croix, on a le sentiment que cette crise, au fond, en Allemagne, et cette relation compliquée désormais entre l'Ukraine et l'Allemagne, rejaillit aussi sur le reste de l'Europe, y compris sur nous. On a l'impression qu'au début, il y avait quelque chose de très particulier qui s'était noué entre Zelensky et l'Europe, et que ce particulier-là s'est évanoui dans notre relation à nous et dans la relation allemande aussi.
Alors, je ne dirais pas que ça s'est évanoui. Je pense que c'est un effet de la guerre qui perdure et que c'est très très dur de rester sur ce petit nuage dans lequel on était. Je crois que ce serait d'ailleurs une erreur de nous le reprocher les uns les autres. Je pense qu'on est tous dans la difficulté. Bon, la France est, elle, dans un contexte très particulier. On n'a pas non plus parlé du regard de l'Allemagne sur ce qui se passe en France, qui est aussi un vrai sujet et qui fait partie aussi des choses qui coupent le souffle en Allemagne et qui peut-être donnent des difficultés à certains au gouvernement de dire quelque chose.
On y reviendra parce qu'il va se passer des choses chez nous, pas ce dimanche-là, mais celui d'après probablement, qui vous intéresse aussi. Hélène Millard de la Croix, merci vraiment de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet, la suite du périple de Daria vers la Belgique. Nous irons aussi au Brésil où les Indiens se battent contre l'exploitation de leurs terres avec le soutien de Lula pour aller jusqu'à 19h sous les radars. Sébastien Logénie.
Dans le Michigan aux États-Unis, la mort violente d'un conducteur noir tué par un policier blanc fait remonter de mauvais souvenirs.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous Pierre Benazé, bonsoir.
Les conséquences collatérales du conflit en Ukraine, d'une part sur l'état de droit à l'intérieur de l'UE et d'autre part sur les vieilles alliances centre-européennes. Et puis aussi l'Europe qui veut partir du Mali, mais sans en partir.
Le Monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous, on va se pencher sur cette formule choc du chef de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le monde ne prête pas la même attention aux vies des Noirs et des Blancs, pas la même attention à l'Éthiopie ou au Yémen. Qu'à l'Ukraine.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait une pause à Brooklyn avec Parquet Courts, Watching Stranger Smile sur France Inter. Notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet sont là comme chaque soir. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Des notes vocales d'Ukraine, donc le journal de bord sonore d'une dizaine d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui racontent avec leur téléphone comment ils traversent cette guerre. Et comme hier, nous revoici avec Daria.
Oui, Daria qui, après des semaines de tergiversation, a finalement décidé de quitter le pays avec ses deux petites filles pour rejoindre une amie en Belgique. Hier, on entendait les sons du dernier repas, un borsch partagé avec son mari. Lui risque d'être mobilisé, il ne peut donc pas quitter le territoire. Il les a emmenés en voiture, le trajet a duré toute la nuit, jusqu'à la frontière polonaise. Les voilà.
Bon, voilà, on est à la frontière, avec nos deux valises. Mon mari est encore avec nous, il nous accompagne jusqu'à la sortie.
Voilà, on a traversé la frontière, c'était assez rapide. Nous avons mis globalement 2 heures pour faire les deux contrôles des deux côtés. Il y a beaucoup de monde, il y a des bénévoles, il y a beaucoup de mouvements. Je viens de recevoir un message sur les alertes dans la région de Lviv. C'est automatique, c'est sur les téléphones, c'est suite à ta localisation géographique. Et donc, voilà.
Le message suivant que je reçois de Daria, c'est la radio polonaise qu'elle entend dans le bus. Elle s'y trouve avec une quarantaine de femmes et d'enfants pour une vingtaine d'heures de trajet normalement. Elle dit qu'à chaque fois que sa fille entend des bruits forts, elle pense qu'il s'agit d'alerte, elle s'inquiète. Daria la rassure, il n'y en a plus ici. Mais elle se dit qu'elle ne mesurait pas la peur que c'était. Les voilà arrivés dans un centre d'accueil de réfugiés en Belgique, à Liège.
On attend ici, c'est une école, un internat. Et donc la majorité des personnes qui n'ont pas encore trouvé de famille d'accueil, d'hébergement, elles vont rester ici. Pour l'instant, les filles viennent d'arriver, elles se sentent plutôt bien. Elles ne savent pas encore ce qui les attend, en réalité, il faut le dire. Donc c'est juste, on est un petit peu ici en transit, on découvre. Elles ont déjà apprécié l'architecture. Donc elles ont dit que les maisons étaient belles ici à Liège. Voilà, vous entendez, c'est ma fille qui court pieds nus, ce qui n'est pas très bien parce que c'est frais. Et elle court parce que là, on est dans la salle de sport avec les valises, tout ça. Il y a beaucoup d'espace. Et après, le bus... Elle a envie de courir. Oh, les chkavzoui, c'est-il que mange? Oh, la dette, oui, skarpetke.
Voilà. Ne cours pas pieds nus. C'est sans doute ce qu'elle est en train de leur dire, Daria, qu'on remercie évidemment, et dont on va suivre la trajectoire. Merci aussi à vous, Caroline.
Le 18-20.
Le bruit du monde, la suite ce soir est au Brésil, à Brasilia, où près de 8000 Indiens issus de 200 peuples campent depuis le 4 avril et jusqu'à demain près du Congrès pour s'opposer à plusieurs projets de loi qui menacent leur territoire, exploitation des ressources, des minerais, des hydrocarbures. Tout le Brésil est mobilisé, les politiques aussi, notamment Lula, grand favori de l'élection d'octobre prochain. Et le reste, c'est Anne Vigna qui raconte.
Sans jamais s'arrêter de chanter, les peuples autochtones ont marché 3 km jusqu'au Congrès à Brasilia pour dire leur opposition à une loi qui ouvre leur territoire à l'exploitation des ressources naturelles. Non seulement ce projet de loi viole la Constitution, mais surtout il va légaliser l'orpaillage sur leur territoire, déjà exploité clandestinement. Le peuple Munduruku en Amazonie en connaît les conséquences. La police fédérale a estimé que les orpailleurs auraient déversé plus de 7 millions de tonnes de résidus toxiques dans le fleuve Tapajós qui traverse leur territoire. Pour Alessandra Munduruku, s'opposer à ce projet de loi est une question de survie.
Avec le soutien du gouvernement du président Bolsonaro, les envahisseurs sont entrés de plus en plus dans nos territoires pour chercher de l'or. Et ce projet de loi va ouvrir la voie aux orpailleurs, aux compagnies minières, aux compagnies pétrolières, aux compagnies gazières et aux barrages hydroélectriques dans nos territoires. Et l'or a des conséquences parce que là où il y a de l'or, il y a aussi des tonnes de mercure. Et qui sont les responsables de ces invasions? Ce sont les pays qui achètent cet or.
Alerter la communauté internationale sur ce fléau est un objectif des Indiens. Mais cela ne suffira pas à protéger leur territoire alors que le président Bolsonaro soutient ouvertement les orpailleurs. Les peuples indigènes se sont donc tournés vers l'opposition en cette année électorale au Brésil. L'ancien président Lula est non seulement venu au campement, mais il a surtout promis de les défendre s'il gagne la présidence en octobre prochain.
Nous ne pouvons pas permettre que ce qui a été conquis par votre lutte soit supprimé par décret pour donner des droits à ceux qui pensent qu'il faut en finir avec notre forêt et notre faune. Nous ne voulons plus d'invasion dans les terres indigènes et tous ces décrets seront révoqués immédiatement. Et pourquoi ne pas créer aussi un ministère pour discuter de la question indigène ?
Des mots que les Indiens attendaient depuis bien longtemps et qu'ils ne vont pas oublier, selon Eris Guajajara du collectif Media India qui a tout filmé.
La participation de Lula ici a été un moment historique. Durant le gouvernement de Lula, nous avons eu beaucoup d'espace de dialogue. Mais il y a aussi eu beaucoup de recul avec le barrage de Belo Monte, par exemple, qui a affecté de nombreux peuples indigènes. Et hier, il a promis que s'il était élu, il créerait un ministère des peuples autochtones. C'est la première fois qu'un président vient au campement faire cette promesse devant tous les médias. Et j'espère qu'il tiendra sa promesse et que nous aurons un gouvernement qui pourra répondre aux demandes des peuples indigènes.
La campagne présidentielle a pris une vraie tournure pour les peuples indigènes. Le campement avait d'ailleurs prévu une tente spécialement dédiée aux inscriptions sur les listes électorales.
Anne Vigna pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde de la suite, c'est sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Et nous sommes à Alger, Sébastien, l'Algérie, où l'un des fleurons de la presse indépendante ferme ses portes aujourd'hui.
Oui, c'est ce jeudi 14 avril que le quotidien francophone La Liberté a publié son dernier numéro, la une du journal ce matin, comme un faire-part de décès, barré d'un trait noir avec la manchette « Merci et au revoir » en rouge. C'est la fin d'une aventure qui aura duré 30 ans. Toutes les pétitions, les appels des intellectuels, des personnalités algériennes comme l'écrivain Kamel Daoud ont échoué. La décision a été prise la semaine dernière par le principal actionnaire du journal, le richissime homme d'affaires Issad Rebrab, deuxième homme le plus riche du monde arabe selon Forbes. Son groupe ne manque pas de ressources financières. Alors pourquoi ferme-t-il La Liberté ? Le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, Farid Deba, se demande s'il n'y a pas une volonté de museler la presse.
Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, en Algérie, il y a quand même encore 300 prisonnier d'opinion, c'est pas rien. Les journalistes n'ont pas vraiment la cote sous le régime Tebboune. C'est un coup de canif encore dans la pluralité du monde médiatique et journalistique en Algérie. C'est un drame.
Un drame de plus, car en effet, après l'ouverture euphorique des médias au privé dans les années 80, le paysage de la presse algérienne n'a cessé de se rétrécir ces 20 dernières années. Avant la liberté, il y a eu Le Matin, La Tribune, La Nation, tous fermés par manque de ressources et à cause d'une lente érosion de la liberté de presse dans le pays. L'Algérie figure aujourd'hui à la 146e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Établi par RSF, le pays a perdu 27 places depuis 2015.
Aux États-Unis, un homme noir tué dans le Michigan par un policier blanc.
Le drame s'est produit il y a 10 jours dans l'agglomération de Grand Rapids. On est là dans le Midwest pauvre, près de Chicago et de Détroit. Un jeune policier blanc interpelle un individu noir en voiture. Toute la séquence est filmée par la caméra piéton du policier. Stay in the car. Le policier demande son permis au conducteur. Patrick Loya, 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo. La raison invoquée, la plaque d'immatriculation ne correspond pas au véhicule. Le conducteur tente alors de s'enfuir, on l'entend. S'ensuit une bagarre pendant laquelle l'automobiliste tente de prendre le taser du policier qui sort ensuite son arme de service et tire une balle, vraisemblablement dans la tête de la victime. Voilà, cette vidéo ainsi que trois autres vidéos ont été publiées hier par les enquêteurs, ce qui a provoqué immédiatement l'émotion de la communauté noire de la ville. Des dizaines de manifestants avec des pancartes Black Lives Matter se sont rendus hier soir devant le commissariat central, en référence bien sûr à l'affaire George Floyd. Aucune violence constatée pour le moment. Le chef de la police a promis une enquête rapide. Le policier impliqué a été mis en congé dans l'attente des résultats de l'enquête.
Et on termine avec la mort d'une photographe célèbre pour son travail sur la mafia sicilienne.
La photographe italienne Letizia Battaglia, décédée à l'âge de 87 ans, non pas sous les balles de la mafia, mais à cause de la maladie. Elle aura pourtant traqué les mafieux toute sa vie, menacée de mort, armée de son seul Leica et de sa Vespa, documentant inlassablement les crimes des années 70 et 80 dans les rues de Palerme. À l'époque, le fameux clan des Corleone et tue ses ennemis par centaines, mafieux, mais aussi policiers, journalistes, juges. Au total, elle prendra plus de 600 000 clichés sanglants de ces années terribles.
Era la prima photographe in Italia che lavorasse per un quotidiano.
Un documentaire que l'on entend là a rendu hommage à son travail exceptionnel, Shooting the Mafia. On y voit des images d'une rare violence, des corps transpercés par les balles, parfois 5 meurtres par jour. Des images militantes qui ont permis la prise de conscience de tout un pays face à ce fléau. Le maire de Palerme est devenu l'ami de Letizia Battaglia et lui rend hommage. Elle rendait visible, dit-il, ce qui était invisible.
Et merci beaucoup Sébastien. Je vous laisse partir avec Skip James, qui est guitariste et chanteur de blues des années 30, figurez-vous. La chanson s'appelle Hard Time Killing Floor Blues sur France Inter.
Hard times in every where you go. Times are harder than ever been before. People, they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. Off of this old heart-killing floor, Lord, I'll never get out this low no more.
Skip James. James, Hard Time Killing Floor Blues, une petite pépite que l'on doit au programmateur musical d'Un Jour dans le Monde, Chewbacca.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union. Général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes ? Avec vous, Pierre Benazé. Ce soir, on parle des effets de la guerre en Ukraine sur l'unité des Européens. L'invasion russe, on l'a beaucoup dit, a resserré les rangs au sein de l'Union, en particulier avec les sanctions, donc sans précédent. Mais cette guerre est aussi en passe, Pierre, d'avoir des effets secondaires sur l'état de droit, particulièrement avec la Hongrie. Le trublion européen en la matière n'a apparemment pas l'intention de rentrer dans le rang.
En tout cas, c'est ce qu'a asséné la ministre de la Justice lors de sa réunion avec les homologues européens cette semaine. Judith Varga, c'est son nom, participait à un dialogue sur la situation de l'état de droit dans plusieurs pays, dont la Hongrie. Son diagnostic, pour faire bref, c'est que les électeurs hongrois ont donné une sorte de blanc-seing à la coalition de Viktor Orban, en la gratifiant de 54% des voix aux législatives du 3 avril. Mais Judith Varga va plus loin, elle affirme que la guerre en Ukraine relègue au second plan les préoccupations sur l'état de droit, qui sont avant tout des idées d'Europe de l'Ouest, selon elle.
Dans le voisinage de la Hongrie, il y a le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Pour cette raison, en ces temps très difficiles, nous devons montrer unité, solidarité et solidité entre partenaires européens. Et c'est pourquoi nous devrions nous concentrer sur les sujets qui nous unissent plutôt que ceux qui nous éloignent.
Alors c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, hein, Pierre, de la part de Judith Varga, mais apparemment ces tentatives de la Hongrie n'ont pas beaucoup de succès chez ses partenaires européens.
Ben non, c'est moins qu'on puisse dire, parce que la Commission annonce qu'elle va déclencher pour la Hongrie dans les semaines à venir le mécanisme qui conditionne, vous le savez, les versements budgétaires au respect de l'état de droit. Pour le commissaire européen à la justice Didier Reynders, il y a d'importantes préoccupations qui subsistent sur l'indépendance des médias hongrois, l'équilibre des pouvoirs, la lutte contre la corruption et le système judiciaire.
Dans une situation internationale troublée où nous sanctionnons la Russie pour son agression en Ukraine, où nous voulons faire en sorte qu'un ordre international repose sur des règles, il est important que l'on attache une attention très grande au respect des règles à l'intérieur de l'Union européenne.
Et puis il y a même un autre effet secondaire, Pierre, de la guerre en Ukraine sur l'état de droit dans l'Union, c'est qu'elle est en train de mettre à mal l'unité de l'Europe centrale.
Oui, c'est ce fameux groupe de Visegrad, l'alliance entre Hongrois, Tchèques, Polonais et Slovaques. Cette alliance, elle a sacrément du plomb dans l'aile, pour parler sans détour. Ça pourrait même être une victime collatérale. Viktor Orban voudrait qu'on le laisse tranquille sur les questions d'état de droit, mais il s'oppose bec et ongle à un embargo sur le pétrole russe. Il serait d'ailleurs prêt à payer en rouble, comme demande Vladimir Poutine. Et il accuse Volodymyr Zelensky d'être l'ennemi des Majeurs, puisque le hongrois n'est pas langue officielle en Ukraine. Résultat, il se met en porte-à-faux avec son allié principal, la Pologne, qui, elle, n'est prête à aucune concession envers Moscou. La Pologne se retrouve d'ailleurs dans les bonnes grâces du reste des partenaires européens, à tel point qu'il n'y a pour l'instant pas été question d'ouvrir à son encontre une procédure pour non-respect de l'état de droit.
Mais alors pendant ce temps-là, il reste d'autres régions dans le monde, d'autres crises, en particulier le Mali, où les Européens ont décidé à la fois de partir et aussi de rester, Pierre.
Alors effectivement, on aurait envie de dire que c'est capillotracté, mais en fait c'est plutôt une sorte de demi-décision. Après le départ de Barkhane et de Takuba, plusieurs pays de l'UE voulaient le départ de la mission européenne, EUTM, c'est la formation des forces armées maliennes, surtout depuis l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner, et depuis les accusations d'exactions qu'auraient commis les forces armées maliennes. La junte au pouvoir n'a pas donné les garanties suffisantes pour le fonctionnement de EUTM, mais la mission reste en place tout de même, mais elle suspend ses activités. En fait, plusieurs pays, en particulier au Benelux et dans le sud de l'Europe, ont refusé que l'UE claque la porte, d'abord parce qu'il faut pouvoir maintenir le dialogue, ensuite pour pas donner l'impression que l'Europe parle à queue entre les jambes face à l'arrivée de mercenaires russes, et enfin car il n'est pas certain que les mercenaires de Wagner aient les moyens de rester indéfiniment au Mali.
Pierre Benazé, depuis Bruxelles pour Un Jour dans le Monde, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, alors que la guerre en Ukraine approche donc de 2 mois, le directeur de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a prononcé hier cette formule forte. Il dénonce le fait que toutes les guerres ne déclenchent pas la même attention, pardon, en particulier quand les victimes ne sont pas des blancs. Et vous trouvez qu'il a raison, c'est votre monde d'après.
Au départ, c'est une conférence de presse assez banale, hier après-midi au siège de l'OMS à Genève, consacrée pour l'essentiel à la pandémie de Covid. Et puis au bout d'une heure, sur la fin, le directeur général de l'organisation, donc l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, s'est interpellé sur l'Ukraine. On le sent alors étreint par l'émotion. Il est calme, il parle lentement, mais la douleur est perceptible dans sa voix. Je vous mets le lien de la vidéo sur le site de France Inter. « Le monde, dit-il, ne prête pas le même degré d'attention aux vies des Noirs et à celles des Blancs. Ghebreyesus ne prononce pas le mot racisme, mais c'est tout comme. Il marque une pause et il poursuit. Toute l'attention sur l'Ukraine est très importante parce que ça a un impact sur le monde entier. Mais pas une fraction de cette attention n'est donnée au Tigré en Éthiopie, au Yémen, à l'Afghanistan ou à la Syrie. Et il répète doucement. Pas une fraction. D'une voix triste, il poursuit en paraphrasant l'écrivain George Orwell. Le monde ne traite pas la race humaine de la même façon, certains sont plus égaux que d'autres. Ghebreyesus prend ensuite l'exemple de la situation chez lui, au Tigré, où il faudrait multiplier l'aide humanitaire par mille, où des gens sont brûlés vifs à cause de leur appartenance ethnique. Et avec de la lassitude, il conclut « Je ne suis pas sûr que cela ait été pris au sérieux par les médias ». J'espère que le monde reviendra un jour à la raison et traitera toute vie humaine de la même façon.
Alors, cela dit, il est lui-même tigréen, donc un peu jugé parti, non ?
Oui, c'est vrai, mais en même temps, ce qu'il dit est juste. L'attention portée à la guerre au Tigré en Éthiopie reste faible, presque inexistante comparée au conflit en Ukraine, alors que les crimes de guerre y sont tout aussi documentés. Viols, meurtres, pillages, des millions de personnes menacées par la faim. Le rapport conjoint publié la semaine dernière par Amnesty International et Human Rights Watch est édifiant. Il dénonce une campagne implacable de nettoyage ethnique, encore une fois des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le Yémen, également cité par Ghebreyesus, connaît lui un calvaire depuis 8 ans, une guerre sans fin mais dans une zone grise oubliée du monde, près de 400 000 morts, 400 000, et la plus grave crise humanitaire de la planète. Et on peut continuer l'inventaire, la Syrie où la guerre n'est pas totalement terminée, l'Afghanistan, le Mali, même si en France on continue d'y prêter attention vu notre engagement passé. L'idée c'est pas d'établir une hiérarchie avec l'Ukraine, hein, seulement de dire que ces conflits mériteraient la même attention, mais ils se passent en dehors de l'Europe, en zone non blanche, pour reprendre le vocable de Ghebreyesus. Et on pourrait ajouter à ce paysage la situation sur le front de la pandémie. La vaccination progresse toujours aussi lentement au sud. Un tiers de la population mondiale n'a toujours pas reçu la moindre injection. Et dans les pays les plus pauvres, ce sont les trois quarts des habitants. Les pays riches n'ont versé que 10% des sommes promises au dispositif international Acte A, censé fournir tests et vaccins aux pays à faible revenu. C'est pas tout à fait une guerre, c'est vrai, d'accord? Mais là aussi, certains humains sont plus égaux que d'autres.
Alors, Jean-Marc, je suis navré de ce cynisme, mais on découvre un petit peu la Lune, non ?
Oui, bien sûr, c'est pas un fait nouveau, ça. C'est réel. Mais c'est pas une raison pour s'y résoudre. Le chef de l'OMS y voit d'abord, on l'entend, une forme de racisme blanc-noir post-colonial. Alors, il s'y niche aussi, sans doute, une forme de mépris de classe, une condescendance des pays riches vis-à-vis des pays pauvres, et un ethnocentrisme, alors là, pour le coup, terriblement humain. Vu d'Occident, une guerre en Europe mérite plus d'attention qu'une guerre en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais là où ça cloche, c'est que l'Occident a trop souvent la prétention d'incarner l'intérêt général, la communauté internationale, ce joli mot qui dissimule une coquille vide. Et puis en plus, dans un univers désormais mondialisé où les informations circulent rapidement, le décalage devient flagrant aux yeux de tous. Les pays du Sud sont très conscients de cette inégalité de traitement. Notre correspondant au Proche-Orient, Aurélien Colli, nous racontait il y a quelques jours combien dans la région on s'irrite du deux poids deux mesures entre le sort réservé aux réfugiés syriens et le statut accordé aux réfugiés ukrainiens. Cette situation nourrit la colère vis-à-vis des Occidentaux. Et puis en plus, elle est pain béni pour la Russie ou la Chine qui n'aiment rien tant que de dénoncer une hypocrisie occidentale. C'est l'une des raisons qui explique la distance avec laquelle les pays du Sud regardent la guerre en Ukraine. Leur refus aussi de suivre l'Occident dans une logique de sanctions contre la Russie.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. La suite pour nous, c'est le journal d'Hélène Philly dans un tout petit instant et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.